France Culture.
Le journal vous est présenté par Lou Bourdi.
Bonjour, bonjour à tous. Il a passé la nuit en prison. Nicolas Maduro est arrivé à New York hier où il est inculpé pour trafic de drogue. Et Donald Trump raconte avec fierté la capture du président vénézuélien. Une capture qui inquiète au Mexique. Les habitants descendent dans la rue. Et puis en Iran, 7e jour de contestation contre la vie chère. Un pays marqué par plus de 20 ans de protestations. Explication dans le journal. Nicolas Maduro a passé la nuit dans une prison de New York. Le président vénézuélien, déchu, et sa femme ont été exfiltrés par avion vers les États-Unis après leur capture au Venezuela. Une capture que le président américain a racontée en détail hier lors d'une conférence de presse à Mar-a-Lago en Floride. Et Franck Madvon, sans surprise, Donald Trump s'est montré très fier.
Une avalanche de superlatifs pour saluer l'opération du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon Donald Trump, le président américain n'a pas laissé la moindre place au doute. Il présente la capture de Maduro comme une éclatante réussite qui parachève des mois de pression sur le régime, frappe contre des bateaux de narcotrafiquants, pétroliers saisis. Le dictateur illégitime Maduro, affirme Trump, était le baron d'un vaste réseau criminel, responsable du trafic de quantités colossales de drogues illicites et meurtrières vers les États-Unis. Il a supervisé personnellement le terrible cartel connu sous le nom Cartel de los Soles. Lutte anti-drogue, liberté pour les Vénézuéliens, mais aussi le pétrole. L'administration Trump ne s'en cache plus, elle convoite également l'or noir de Caracas. Et c'est peut-être pour cela que Donald Trump veut voir les États-Unis diriger le pays jusqu'à une transition sûre, appropriée et judicieuse. Nos très grandes entreprises pétrolières vont dépenser des milliards de dollars et réparer les infrastructures pour gagner de l'argent pour le pays. Aucun détail sur l'équipe qui pourrait prendre le pouvoir après Maduro. Donald Trump a presque disqualifié l'opposition de la prix Nobel de la paix Maria Corina Machado, qui d'après lui manque de soutien.
Franck Madvon pour France Culture. Et de son côté, la Cour suprême du Venezuela ordonne à la vice-présidente Delcy Rodriguez d'assurer l'intérim du pouvoir dans le pays. Une intervention américaine qui inquiète en Amérique latine. Le Mexique condamne l'opération militaire et les bombardements sur Caracas la nuit de la capture du président vénézuélien. Le pays invoque le respect des règles internationales définies par l'ONU et demande à l'institution internationale de réagir. Et pour cause, le Mexique se sent particulièrement concerné par cette action de Donald Trump, car le sujet de la lutte contre le trafic de drogue revient en permanence sur la table dans la diplomatie des deux pays. Résultat, de nombreux Mexicains sont descendus dans la rue pour manifester hier. Un millier de personnes se sont réunies devant l'ambassade américaine à Mexico. Gwendolina Duval.
Des manifestants s'en prennent au mur de la nouvelle ambassade américaine à Mexico. Dehors les Yankees, crie la foule. C'est le même slogan écrit sur la pancarte d'Eric.
Indépendamment du fait que vous soyez pour ou contre le régime de Maduro, je crois que vous devez être contre le régime Yankee. Ça doit être le peuple qui peut décider de destituer un dirigeant, et certainement pas le gouvernement d'un autre pays.
Ces Mexicains, comme Mayra, ne croient pas le discours de la Maison-Blanche et dénoncent une stratégie pour s'accaparer le pétrole vénézuélien.
L'Amérique latine n'est pas l'arrière-cour des gringos. Trump dit qu'il veut mettre un terme au narcotrafic, mais qui amène la drogue aux États-Unis? Combien de gringos narcotrafiquants ont-ils attrapé? Aucun. Ce sont eux qui gèrent les drogues. Et tout cela n'est rien de plus qu'un prétexte pour justifier leur interventionnisme.
Le scénario d'une opération sur le territoire mexicain contre les cartels a déjà été formulé par Donald Trump. Alors Elena voit ce qu'il se passe au Venezuela comme un message menaçant envoyé à son pays.
En tant que Mexicaine, je suis préoccupée. Le gouvernement mexicain mène une politique de souveraineté nationale qui va à l'encontre des intérêts des États-Unis. Il n'y a aucune loi qui puisse arrêter les agressions des États-Unis. À n'importe quel moment, les bombes qui tombent aujourd'hui sur Caracas peuvent tomber ici.
Un reportage de Gwendolina Duval pour France Culture. Et à l'instant, réaction de la Chine qui appelle les États-Unis à libérer immédiatement le président Maduro. Des réactions aussi, vous l'imaginez, en Europe, si la majorité des chancelleries européennes ont d'abord appelé au respect du droit international, eh bien les positions se sont durcies au fil de la journée. Dans la soirée, Emmanuel Macron a affirmé que le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolas Maduro et ne peut que s'en réjouir. que s'en réjouir, ce qui a provoqué la colère de la gauche française. Le chancelier allemand a jugé de son côté que Nicolas Maduro avait, je cite, « conduit son pays à la ruine ». Et pour sa part, Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien, a qualifié de légitime l'intervention militaire. En Iran, au moins 4 morts dans des manifestations dans l'ouest du pays. Des affrontements ont éclaté à nouveau entre manifestants et forces de l'ordre. C'est le 7e jour du mouvement de protestation dans la République islamique, déclenché par une lutte contre la vie chère, mais qui a rapidement pris une tournure politique. Jeudi dernier déjà, 6 personnes ont trouvé la mort, dont un membre affilié aux gardiens de la Révolution. Un nouvel épisode de contestation dans un pays marqué déjà par une longue liste de colères depuis 20 ans, Nathanaël Charbonnier.
Ce qui est impressionnant avec la contestation iranienne, c'est qu'elle n'a presque jamais cessé depuis les années 2000, première fronde des étudiants en 1999 qui sera suivie 10 ans plus tard avec le mouvement vert. À l'époque, il s'agit de protester contre le résultat des élections. Ensuite, presque tous les ans, on retrouve les Iraniens dans la rue à l'occasion du printemps arabe, puis en 2013, nouvelle grogne contre le gouvernement. 2014, le mouvement prend une forme insolite, avec un geste fort, celui de se raser la tête en soutien aux prisonniers politiques. 2017, 18, 19, les Iraniens descendent à nouveau dans les rues. Hausse des prix des denrées, de l'essence, pénurie d'eau, pénurie d'électricité, le pouvoir tangue sans jamais céder. C'est une jeune fille du nom de Mahsa Amini qui relancera la colère en 2022, après sa mort en détention, et cela pour avoir mal porté son voile. Elle sera à l'origine du mouvement Femmes, Vie, Liberté qui traversera l'Iran et qui vaudra à la militante iranienne Narges Mohammadi le prix Nobel de la paix 2023.
En France, face à la colère des agriculteurs contre la gestion de la crise de la dermatose, la ministre de l'Agriculture appelle à nouveau à la désescalade avant les rendez-vous prévus à Matignon. Dans un entretien à la Tribune du Dimanche, Annie Genevard demande à cesser notamment les barrages. Les organisations syndicales doivent rencontrer le Premier ministre en début de semaine. Et puis on termine ce journal par le froid, encore bien présent aujourd'hui en France. Les minimales souvent comprises entre moins 8 et moins 3 degrés, seules les régions proches de la Méditerranée et de la Manche seront épargnées par les gelées.